Et je voudrais que, sans plus tarder, nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux paroles qu'on a chantées tout en dernier, mais on a dit « Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel ». Est-ce que c'est bien quand les hommes nous parlent ? Ça peut être bien ou ça peut être moins bien. Parce que de toute façon, les hommes ne sont pas éternels. Mais quand c'est celui qui est éternel qui nous parle, je crois qu'il y a, ça fait toute la différence. Je crois que il y a une portée totalement différente dans les paroles qui peuvent être dites par une personne qui est éternelle. Cette personne, c'est Dieu. Et je crois que Dieu, cet après-midi, veut nous parler à chacun. Et combien je prie que nous soyons chacun à l'écoute, moi le premier, à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous dire au travers de sa parole. Je vous invite à lire donc dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 10. Un texte qui est tellement bien connu, mais je vais dire presque trop connu pour être bien compris. On a l'impression de bien le connaître. Et moi, plus je le lis, plus je me rends compte que je ne le connais pas finalement. Je ne connais pas dans toute la profondeur de ce qu'il renferme. Et je pensais à ce texte quand j'ai lu un livre, et c'est intéressant ce qu'a dit Michael tout à l'heure par rapport à confesser, invoquer le nom du Seigneur, vous savez. Et je lisais un livre, moi, qui parlait de la confession, le fait de confesser, et la personne qui racontait ce livre-là, qui parlait dans ce livre, disait que confesser, c'était dire à haute voix, prononcer à haute voix le nom de Dieu. Et c'était comme une formule magique que tous les jours, si on voulait que Dieu nous bénisse, il fallait qu'on prononce à haute voix le nom de Dieu ou le nom de Jésus. Comme si ça allait faire quelque chose de plus que de le dire à haute voix. Et laissez-moi vous dire que nulle part dans la parole de Dieu, il est dit que si on prononce le mot Jésus tous les jours, on va être plus béni que les autres qui ne le prononcent pas. Ce n'est pas ça confesser ou invoquer le nom du Seigneur. Et c'est, heureusement, c'était dans les premiers chapitres, tout de suite j'ai vu que c'est une fausse doctrine qui était en train de circuler dans ce livre. C'était une pauvre mamie à qui on lui avait prêté ce livre, qui demandait justement un conseil. Mais j'ai pu lui dire, c'est pas bon. Parce que confesser le nom du Seigneur ou l'invoquer, c'est véritablement s'attendre à lui. Quand il est, dans la Bible, hein, quand il est parlé d'invoquer le nom du Seigneur, c'est faire appel, c'est s'adresser. C'est crier vers le Seigneur, c'est quand notre foi, quand ce qui est à l'intérieur, notre confiance en Dieu est plus grande que le doute qui est là aussi, mais il y a un combat, mais c'est notre foi qui l'emporte. C'est ça, invoquer le nom du Seigneur. Et malheureusement, on est dans une époque où il y a beaucoup de choses qui circulent, et il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent même de combat. Et on parle du combat spirituel, mais on se trompe dans la nature du combat spirituel. On se trompe, on a du mal à discerner le véritable combat, et ce texte, il nous en parle en particulier. Je voudrais qu'on le lise ensemble au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Un texte qu'on connaît bien. Hein. Qui n'avait jamais lu ce texte aujourd'hui ? C'est intéressant de le savoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Bon, il y a une personne. C'est pas grave. C'est l'occasion de le lire. L'occasion de découvrir ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce combat. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que dès l'instant, dès le moment où on est sauvé, dès le moment où on est touché par la grâce de Dieu, c'est comme si on était tout de suite jeté au milieu d'une mêlée, au milieu d'un combat rude, sans qu'on s'en rende compte véritablement. On ne le discerne pas tout de suite, mais petit à petit, on en prend conscience. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur ne nous abandonne pas, et on a un chant qui dit qu'il est avec nous dans la mêlée, parce qu'il nous protège, il est là, il nous aide. Mais souvent, comme je le disais tout à l'heure, on se trompe de combat. Il y a la réalité des puissances mauvaises, d'un monde spirituel qui est mauvais, Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à tout cela? Moi, je réfléchissais parce que je me souviens dans un lointain séminaire que j'ai fait il y a, on va dire, 10 ans en arrière à peu près. Il y avait un chant qui avait été apporté et qui m'avait pas, comment dire, qui m'avait pas apporté la paix, ce chant, par rapport à des paroles. Je me souviens quelques paroles. C'était « Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris tout ce qu'il m'a volé. » Et après, on chantait « Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. » Et j'ai véritablement été gêné par ce chant parce que je trouvais que c'était quelque chose de trop dévalorisant par rapport au diable. Je ne suis pas là cet après-midi pour valoriser le diable, loin de là, mais je ne suis pas là non plus pour minimiser le diable. Parce que c'est une réalité, souvent, M. Grand parlait des églises entières qui croient plus du tout à l'existence du diable, à l'existence de l'enfer. C'est une réalité, Jésus en parle lui-même. Le diable existe, l'enfer existe, et je ne veux pas minimiser son œuvre, mais je veux dire que cet après-midi, il essaye, il emploie toutes sortes de stratégies, de tactiques pour essayer de nous amener vers le bas, surtout pour nous essayer de nous séparer de Dieu. Et la plus belle arme, la plus puissante arme que nous avons entre nos mains, ce n'est pas de dire quoi que ce soit au diable. Ce n'est pas les paroles qu'on va prononcer contre le diable. Ce n'est pas ça notre arme. C'est pas ça notre arme. L'arme que le Seigneur nous a donnée, je ne sais pas si vous l'avez discernée au travers de tout ce qu'on a lu, c'est même une armure entière, une panoplie. Ça se compare à l'armure qu'avaient les légionnaires ou l'armure qu'avaient les soldats grecs qui s'appelaient les hoplites. Panoplite, ça veut dire toute l'armure, justement. Et je vous laisse le soin d'aller sur Internet voir à quoi ressemble un soldat hoplite. Et vous verrez que ça ressemble tout à fait à la description qui est faite des armes-là. Mais quand on réfléchit en profondeur à ces armes, on se rend compte que ça ne ramène qu'à une seule chose. Notre arme la plus puissante, comme je le disais, c'est pas de dire quoi que ce soit. Notre arme la plus puissante, c'est de nous soumettre à Jésus-Christ, d'être en communion avec Jésus-Christ. Et il y a quelque chose qui est dit par rapport à cette armure. Revêtez l'armure. Revêtez l'armure. Et il y a un autre texte qui nous dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà ce que je voudrais dire cet après-midi. C'est que l'armure de Dieu, ce n'est rien de moins que la personne de Jésus. Et moi, je me suis fait piéger, on va dire, en croyant que l'armure de Dieu, c'était que j'allais faire des efforts pour dire la vérité, faire des efforts pour faire ce qui était juste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Hein. Au contraire, il faut pratiquer la justice parce que le Seigneur Jésus nous aura donné de le faire. On sera en communion avec lui, ça sera quelque chose qui va découler. Mais c'est pas des bonnes résolutions que je fais. Allez, je vais prendre la ceinture comme vérité, je vais maintenant tout le temps dire la vérité, je vais m'efforcer de dire la vérité, je vais m'efforcer de pratiquer la justice, je vais m'efforcer d'avoir du zèle, je vais m'efforcer de penser au salut. Quand on regarde vraiment ce qu'il est dit, on se rend compte que dans chaque aspect, il y a Jésus qui transparaît. Et finalement, revêtir l'armure de Dieu pour résister contre les puissances mauvaises, ce n'est rien de moins que de veiller avec ferveur, et il faut le faire avec tous nos efforts, de veiller à notre communion avec Jésus, de veiller dans tous ces aspects-là. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cette parole dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et laissez-moi vous dire cet après-midi que quand je veux me ceindre de la ceinture de vérité, je veux simplement réaliser que la vérité dont j'ai besoin, c'est que nul ne vient au Père que par Jésus. La vérité dont j'ai besoin, c'est de réaliser que je suis obligé de passer par Jésus pour pouvoir accéder au Père et pour pouvoir accéder à toute la force du Père. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante à lui. Je ne vais jamais trouver de force en moi-même. La ceinture, à l'époque, ils mettaient une ceinture pour attacher leur robe, pour pouvoir se déplacer plus facilement, parce qu'ils avaient des tuniques, et donc quand ils voulaient travailler ou combattre, ils mettaient leur ceinture, pour que ça ne les gêne pas dans leur mouvement. C'était aussi pour concentrer toute leur force. Mais notre force à nous, est-ce qu'elle repose en nous-mêmes? Est-ce qu'elle repose dans les choses que nous pouvons faire, ou dans les talents que nous avons, dans les qualités, dans l'intelligence que nous pouvons posséder, dans les richesses? Ou est-ce que notre force ne repose pas tout simplement en Dieu? Et elle est possible d'être obtenue, d'être saisie, que par la personne de Jésus. La ceinture de vérité, C'est celle que le Seigneur Jésus nous donne. Je veux avoir foi dans la vérité. Je veux placer ma foi, ma confiance dans la parole de vérité que le Seigneur Jésus nous donne. Cet après-midi, je voudrais très rapidement passer chacune de ces armes, sans trop expliquer, mais en vous montrant que c'est Jésus qui transparaît de tout cela. La cuirasse de la justice, vous savez que le Saint-Esprit, il utilise la vérité pour que nous voyons clairement les choses. On en avait parlé il y a quelque temps, convaincu de péché, le Saint-Esprit utilise la vérité pour nous montrer que nous sommes pécheurs, puis pour nous montrer que nous sommes justifiés, puis pour nous montrer que nous échappons au jugement. Le jugement, il est tombé sur quelqu'un d'autre, il est tombé sur Jésus, mais le diable aussi a été jugé, le péché a été jugé. Et il montre toute cette vérité-là. Et quand nous avons la ceinture comme vérité, nous réalisons que Jésus est le chemin pour accéder au Père, nous réalisons aussi, par la foi dans cette vérité, que nous sommes justifiés. Qui c'est qui nous justifie? La parole de Dieu est claire encore. La cuirasse de justice, est-ce que c'est notre propre justice? Qu'est-ce que dit la Bible de notre propre justice? Nous sommes tous comme des impurs, Ésaïe 64, verset 5, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Même la plus belle chose, et j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, même la plus belle chose qu'on peut faire sur la terre, devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé, comme une belle robe blanche, mais pleine de taches, de boue, de tout ce que vous voulez. Devant Dieu, c'est comme ça. Parce que nous ne sommes que des hommes. Et Dieu est parfait, Dieu est saint. Daniel, quand il priait pour son peuple, quand il voulait que la prophétie se réalise enfin, parce qu'il avait compris que c'était les temps, il a dit, ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Daniel, il savait que s'il priait, il ne fallait pas qu'il s'appuie sur quelque chose qui n'était pas solide. Et il a dit, notre justice, ce n'est pas quelque chose de solide sur lequel je peux m'appuyer. Ce n'est pas quelque chose d'assez solide pour me protéger. Ce n'est pas quelque chose d'assez solide pour que ça soit la cuirasse avec laquelle je vais me revêtir. Par contre, ce qui est solide, ce qui est inébranlable, ce qui est sûr, c'est la justice de Christ. Et le fait que par son sacrifice, je suis justifié simplement en demandant pardon. J'ai la grâce, j'obtiens cette grâce d'être justifié, d'être lavé, d'être blanchi. Et maintenant, j'accède à la présence de Dieu. Et vous savez très bien que la cuirasse, la fonction principale de la cuirasse, c'était de protéger le cœur en particulier. C'est les endroits stratégiques qu'il fallait protéger. Eh bien, il y a le cœur. Et je crois véritablement que si nous comprenons de mieux en mieux que Jésus-Christ est notre justice, celui qui nous justifie, je crois que nous le comprendrons de mieux en mieux comment protéger notre cœur. C'est par lui, c'est en sa force encore une fois. C'est par le moyen de la communion avec lui que nous pouvons protéger notre cœur. Et pas en essayant de faire... Et bien sûr qu'il faut pratiquer la justice, mais ce n'est pas ça qui va nous protéger. Ce qui va nous protéger, c'est d'avoir la communion avec Dieu et de pratiquer la justice après, par la suite. Les chaussures du zèle, ou comme il est dit, alors c'est au verset 15, voilà. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Et quand on lit comme ça, en bon français que nous sommes, on ne comprend pas forcément ce dont il est question, parce qu'il y avait une coutume à l'époque qui faisait en sorte que, quand il y avait un personnage important, un roi en particulier, qui allait d'une ville à une autre, il y avait des personnes qui étaient chargées de voir le chemin qu'allait emprunter le roi. Et s'il y avait des obstacles, s'il y avait des collines, s'il y avait des cailloux, peu importe ce qu'il y avait, s'il y avait des fossés à remplir, il le faisait, il préparait toute la route de telle sorte que le roi, quand il arrivait, il y avait tout de près. Et quand il est question du zèle, c'est pas le mot zèle, c'est plus cette préparation, cette promptitude à préparer les choses. Et c'est ce que nous devons faire quand nous voulons nous revêtir des chaussures de l'évangile. Est-ce que nous laissons l'évangile de paix préparer les choses pour que le Seigneur Jésus puisse venir, comme si on préparait un trône magnifique et que le Seigneur Jésus pouvait enfin venir? Est-ce que nous préparons nos vies de cette manière-là, afin que le Seigneur Jésus puisse venir enfin s'implanter, que puisse venir s'asseoir littéralement sur le trône de nos cœurs? C'est ça, quand il est question du zèle de l'évangile de paix. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il est question de préparer, donc de faire en sorte qu'il y ait une stabilité, un équilibre, des bases solides. Moi, ça me fait penser à ces personnes qui sont fondées et enracinées en Christ. Est-ce que nous sommes de ces personnes-là? Tellement préparés que nous choisissons jour après jour de pas nous enraciner dans ce que nous avons, dans les choses matérielles, mais nous enraciner en Christ, de nous fonder en Christ. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pensée qui revient le plus souvent, le verbe qui revient le plus souvent, par rapport aux attaques de l'ennemi, ce n'est pas « foncer dans le tas », c'est « résister », c'est « tenez ferme ». Tenez ferme. Il n'est pas question de courir et de foncer dans le tas et d'attaquer qui que ce soit. Il est question de résister. Résister dans le mauvais jour, résister face aux stratégies. Il est question de lutte, mais on se rend bien compte que c'est pas, on cherche pas, nous, à lutter. C'est qu'on met l'armure de Dieu pour résister parce qu'on est attaqué. Et le combat, c'est de rester en Christ et de demeurer en Christ. Et à 4 reprises, il est dit « tenir ferme ». Il y en a 3 qui sont visibles, « tenir ferme contre les ruses du diable », tenir ferme dans le mauvais jour. En fait, il est dit résister dans le mauvais jour, mais c'est en fait littéralement tenir ferme contre le mauvais jour. Tenir ferme, comment? En revêtant l'armure de Dieu. Ésaïe 40, verset 3 nous dit « Une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée. » Que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés en étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Est-ce que ça vous intéresse, la fin de ce verset? Que la gloire de l'Éternel soit révélée dans chacune de nos vies, là où il y a l'obscurité, là où il y a les ténèbres peut-être, là où il y a on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être une libération, quelque chose qu'on a besoin qui se passe en nous. Est-ce que c'est pas bien si la gloire de l'Éternel se révèle à ce moment-là? Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer au désert le chemin de l'Éternel. Il faut abaisser tout ce qui a besoin d'être abaissé. Il faut exaucer tout ce qui a besoin d'être exaucé. Il faut que les montagnes soient abaissées. Peut-être les endroits où on a eu l'habitude d'aller à cause de notre orgueil, ça représente les montagnes qui sont dans notre vie. Et il faut qu'elles soient abaissées devant le Seigneur. Il faut qu'on se soumette au Seigneur. Il faut qu'on lui dise, Seigneur, tu vois, j'ai élevé cette chose trop par rapport à toi. Et je veux véritablement, cet après-midi plutôt, je veux me tenir devant toi et me soumettre à toi, te soumettre toute ma vie. Pourquoi? Pourquoi on doit faire ça? Parce que nous ne pouvons avancer que si nous sommes en paix avec Dieu. Le zèle que procure l'évangile de paix fait en sorte, si on l'a au pied, eh bien on est protégé pour pouvoir avancer. Vous êtes d'accord? Mais si on n'a pas en paix avec le Seigneur, eh bien c'est impossible de pouvoir avancer. Voilà pourquoi il y a des gens qui essaient de combattre avec l'ennemi, mais qui déjà n'ont pas réglé ce problème de la paix avec Dieu. Comment la Bible nous dit que nous pouvons avoir la paix avec Dieu? Jésus a dit une parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le repos, ce repos, ça nous parle de la paix de Dieu, justement. Mais comment en faire? Venir à Jésus. Aller dans sa présence et dire, Seigneur, tu vois, s'il y a une moindre chose qui est là, qui est comme une montagne ou qui est comme un fossé qui est là, et qui engloutit toutes ces choses de ma vie qui m'empêchent d'avancer vers toi, Seigneur, je veux te le présenter. Je veux que tu fasses ton œuvre en moi afin qu'il n'y ait rien et que nous soyons en paix. Comment on est en paix? Par la grâce de Dieu, par le moyen de Jésus à la croix. Seigneur, je sais que c'est toi qui me réconcilie avec Dieu, alors je veux que tu fasses cela cet après-midi. Pourquoi? Pour que je puisse avancer, faire des progrès, aller de l'avant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment Dieu dit bien les choses quand même. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ seul que nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Le bouclier de la foi. On peut relire ce qu'il est dit au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Seule la foi en Jésus peut nous garder des attaques du diable. Il n'y a aucune autre foi, en quoi que ce soit dans ce monde, qui peut nous garder des attaques du diable. Et je pensais à cette personne qui m'a dit, mot pour mot, j'ai négligé la communion avec Dieu, et qui, parce qu'elle avait un esprit mauvais, elle a re-eu un esprit mauvais par la suite, parce qu'elle avait simplement négligé la communion avec Dieu. Elle n'a peut-être pas négligé d'autres choses. Peut-être que tout le reste, c'était pareil. Mais elle a dit, elle s'est rendue compte que c'est la seule chose qu'elle a négligée, c'était la présence de Dieu dans sa vie. Et le résultat, c'est que ça a laissé la place à d'autres choses. Est-ce que nous sommes attentifs à garder la foi dans le Seigneur Jésus et réaliser véritablement que la foi dans le Seigneur Jésus, c'est comme un bouclier. 2 Samuel 22, verset 31 nous dit « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui font quoi ? Tous ceux qui se confient en lui. » Est-ce que vous vous confiez en Dieu ? Proverbe 30, verset 5 nous dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. » Vous voyez, c'est dans la même logique. « Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » En cas de détresse, en cas de difficulté, en cas d'épreuve, auprès de qui cherchez-vous un refuge ? Qui est votre refuge ? Qui est notre refuge cet après-midi ? Est-ce que nous pouvons dire « Oui, moi quand ça ne va pas, quand il y a des attaques de l'ennemi, quand il y a les traits enflammés du malin qui viennent, je sais que mon refuge, il ne se trouve que dans une seule personne, dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je peux tenir bon, voilà pourquoi je peux tenir ferme, voilà pourquoi je n'ai rien à craindre, parce que si mon refuge est en lui, alors il est mon bouclier. C'est lui qui encaisse les coups à ma place. Et quelle plus belle image que le Seigneur Jésus, qui à la croix, il a subi toutes les douleurs de notre péché à notre place. Il a porté nos maladies, la Bible nous dit. Toutes les maladies qu'on peut traverser, il les a portées. Quelle plus belle image de réaliser que c'est Jésus qui est mon bouclier. Par la foi en Jésus, je suis protégé de toutes ces attaques. Mais je ne voudrais pas m'étendre plus. Recevez le casque du salut. Et ce verset d'Actes 4 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Vous voyez qu'on est toujours dans cette pensée-là. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Et quand on réalise que notre salut, il ne repose pas sur nos mérites, comme on le disait, mais il repose que sur l'œuvre de Jésus, alors oui, je veux porter le casque du salut. Je veux réaliser, je veux protéger mon esprit par cette pensée, que ça soit la voix la plus forte qui résonne à l'intérieur de moi, que Jésus est mon sauveur, que Jésus est celui qui a sauvé ma vie, et Jésus est celui qui peut me sauver, me délivrer de toutes les choses que je traverse jour après jour. C'est par la foi, nous rappelle l'apôtre Paul, que nous sommes sauvés. Et Jésus a dit à de nombreuses reprises à des personnes, « Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. » Et vous voyez qu'à chaque fois, dans toutes ces armes, c'est la foi en Jésus qui concrétise la chose qui est dite, qui permet d'accéder, de saisir la chose qui est dite. Par la foi, on peut comprendre, on peut saisir la vérité. Par la foi, on est justifié. Par la foi, on peut laisser l'évangile préparer notre cœur. Par la foi, on est sauvé, tout simplement. Et il y a cette dernière arme que le Seigneur nous a donnée. Prenez aussi le casque du salut, on l'a dit, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et quand je pense à la parole de Dieu, je pense à ce verset de Jean qui nous dit que la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, c'est aussi les paroles que le Seigneur Jésus nous a laissées, mais c'est aussi la personne du Seigneur Jésus. Et quand on lit, je vous passe les détails, mais quand on regarde toutes les paroles, toutes les façons dont l'apôtre Paul et les apôtres ont décrit l'évangile, ont décrit l'œuvre que Jésus a faite, il est question de paroles de vérité, il est question de paroles de justice, il est question de paroles de paix, il est question de paroles de foi. Il est question des paroles du salut. Et on se rend compte que dans toutes ces choses-là, ça regroupe l'armure de Dieu. Oui, l'armure de Dieu, ce n'est rien de moins que la personne de Jésus. Et quand il est dit « revêtez-vous de toutes les armes », revêtez-vous de Jésus-Christ, revêtez-vous de sa personne. Mais je voudrais terminer ce moment avec un exemple bien concret d'une personne qui a vécu ces choses dans sa vie, qui a expérimenté le fait qu'on peut avoir une très belle armure d'un point de vue humain, mais que ça ne sert à rien, et par contre on peut avoir une armure spirituelle, l'armure de Dieu dans notre cœur, et ça change tout. Et cette personne, c'est David. On va aller dans 1 Samuel chapitre 17, lire quelques versets rapidement, et on va se rendre compte, si vous lisez les psaumes d'ailleurs, vous allez vite vous rendre compte que David, il comprenait ce que c'était l'armure de Dieu. Il avait bien compris ce que c'était le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, tout ça il avait bien compris. Il avait bien compris l'importance de la parole de Dieu. Si vous lisez le psaume 119, je crois qu'il n'y a personne qui a mieux expliqué son attachement pour la parole de Dieu que David au travers de ce psaume. Et regardez ce qu'il est dit, on va lire quelques versets donc pour poursuivre. 1 Samuel chapitre 17 verset 9. C'est Goliath qui est en train de haranguer le peuple d'Israël pour le défier. Il leur dit « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et qu'est-ce qui se passe? Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donnez-moi un homme. Et le Goliath, lui, ce qu'il voulait, c'était combattre de manière humaine. Pourquoi? Parce qu'il avait des arguments qui faisaient qu'il avait sûrement remporté la victoire si c'était que d'un point de vue humain. Il était très grand, il avait des armes incroyables. Et c'est sûr que sans on regarder comme ça, comme faisaient Saül et le peuple d'Israël, on aurait été dans la crainte, effrayé, tout ce que vous voulez. Mais il y a eu un jeune garçon qui est arrivé au verset... Alors on peut lire au verset 16 ce qu'il faisait Goliath. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours devant le peuple d'Israël. Au verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous voyez, il y en a un qui n'était pas découragé parmi tout le peuple, c'était David. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et ça, c'est la vision humaine des choses. Est-ce que c'était faux? Est-ce que David était un enfant? Bon, il était pas vieux. Mais est-ce que Goliath était un homme entraîné à l'art de la guerre? Et oui, c'était vrai. Regardez pourtant ce que dit David. Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Pourquoi? Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Je ne sais pas si c'était une prière de foi, mais je crois que c'est ce qu'il aurait aimé. Vas-y, on verra bien comment ça va se passer. Et Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête, un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Et vous voyez qu'à ce moment donné, à David, Saül veut le faire combattre avec les armes humaines. Mais regardez ce qui se passe. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous imaginez la scène? Il avait un beau casque, sûrement le plus beau de l'armée d'Israël. Il avait une belle cuirasse, peut-être elle était en or, tout ce que vous voulez. Mais il était incapable de marcher avec. Peut-être c'était trop grand, peut-être c'était trop lourd. Et en tout cas, il n'avait pas l'habitude. Quand il s'était battu avec l'ours ou avec le lion, il s'était battu à main nue, mais avec la force de l'Éternel. Et à ce moment donné, David a été devant un choix à faire. Est-ce qu'il allait combattre avec les armes humaines? Ou est-ce qu'il allait combattre avec l'armure de Dieu? Et il a choisi. Et parce que, moi j'aime cette parole, je n'y suis pas accoutumé. Ça veut dire qu'il n'était pas accoutumé à utiliser les armes humaines. Il était accoutumé, ça veut dire aussi, je vais loin, mais ça veut dire, je suis accoutumé à combattre avec l'armure de Dieu. Mon bouclier, c'est le Seigneur Jésus. Mon casque, c'est le Seigneur Jésus. Ma cuirasse, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça ma force, c'est ça. Celui qui est ma délivrance, c'est le Seigneur Jésus. Alors, c'est avec l'armure de Dieu que je veux y aller. Et se rend compte qu'il ramasse 5 pierres polies. Vous savez que le chiffre 5, ça nous parle de la petitesse humaine. Combien de pain a amené le jeune garçon à Jésus pour la multiplication ? 5 pains. Et qu'est-ce que Jésus en a fait ? T'allais le dire, hein ? Tu vois ? 5 pains. Et deux ?
Et deux poissons.
Voilà. 5 pains et 2 poissons. Et ça nous parle de toutes les petites choses qu'on peut amener au Seigneur. Est-ce que 5 pains, ça peut nourrir une foule ? Non, mais 5 pains, le Seigneur Jésus, oui, ça peut nourrir une foule. Parce que c'est lui qui est tout puissant. Et 5 petits cailloux, 5 petites pierres polies entre les mains du Seigneur Jésus, ça fait toute la différence. Et quand on lit la suite, on peut le lire rapidement. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, regardez ce qu'il dit David, et comme quoi il avait bien compris ce qui se passait. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi avec quelque chose de bien plus fort que ça, au nom de l'Éternel des armées. » Est-ce que David, il n'avait pas revêtu la cuirasse de la justice parce qu'il n'avançait pas pour se glorifier, il n'avançait pas pour montrer qu'il était le plus fort, il avançait pour défendre le nom de l'Éternel parce que le Seigneur Jésus l'avait envoyé. Le Seigneur Jésus allait faire justice, quand on lit la suite, on se rend compte qu'il a fait justice au travers d'un simple jeune garçon qui avait mis sa confiance en lui. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je couperai ta tête, etc. Et au verset 47, toute cette multitude saura, écoutez bien ce qu'il dit, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, regardez la conclusion, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie. Amen. Pourquoi il fut le plus fort ? Avec deux petits instruments de berger, parce que il a dit avant, la victoire est à l'Éternel. L'important, ce n'est pas d'avoir les plus belles armes de la terre. L'important, ce n'est pas de faire les plus belles prières du monde. L'important, c'est d'avoir le Seigneur Jésus. L'important, c'est de revêtir le Seigneur Jésus jour après jour. Est-ce que cet après-midi, nous voulons être de ces personnes qui ont compris que l'armure de Dieu, c'est justement rechercher cette communion intense avec le Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas passer un jour, une seconde, un moment sans que le Seigneur Jésus soit en communion avec nous, sans que nous soyons en communion surtout avec le Seigneur Jésus. Jésus a dit « Demeurez en moi ». Et je demeurerai en vous. Est-ce que ce n'est pas ça la plus belle chose que nous devons faire ? Ainsi, nous pourrons résister à toutes les attaques de l'adversaire. Nous pourrons être des personnes utilisées par la grâce de Dieu pour pouvoir secourir les autres aussi. Mais est-ce que ce n'est pas ça d'abord que nous devons faire ? Chercher la présence de Dieu, chercher la présence de Jésus. Oui, si vous lisez tous les psaumes que David a écrits, vous verrez très rapidement. Il a parlé, par exemple, je vous lis les versets 1 pour finir. Si tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. Il avait compris la ceinture de vérité. La force de David, c'était d'avoir compris que Dieu était un Dieu de vérité. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il avait compris que la paix de Dieu, c'était quelque chose qui était incroyable, quelque chose qui était bon. Il avait compris, comme on le disait, c'est lui qui a dit cette parole qu'on a lue tout à l'heure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il a vécu, quand il était en face de Goliath, lui tout petit, le Goliath très grand, revêtu de toutes les armes humaines. Et lui, avec le nom de l'Éternel dans le cœur, Il a compris que l'Éternel était son bouclier. Il a compris qu'il n'avait rien à craindre. Il a compris que le salut est auprès de l'Éternel. Et David, il était près de Dieu. David, il aimait la communion avec Dieu. Quand on voit de quelle manière sa famille le méprisait, Goliath, il l'a méprisé. Il envoyait paître les brebis. Sa famille, il envoyait paître les brebis. Il ne s'occupait pas de lui. Mais David, dans ces moments-là, il faisait confiance à l'Éternel. Il a vécu des expériences incroyables. Est-ce que ce n'est pas incroyable quand même de prendre un lion par la gorge et de le tuer? Ce n'est pas donné à tout le monde, vous êtes d'accord? Mais lui, il a pu vivre ça. Et personne ne l'a vu à ce moment-là. Voilà pourquoi il a pu remporter la victoire devant Goliath, devant une foule entière, parce qu'il avait déjà vécu ces choses dans le secret du champ. Il n'y a que les brebis qui ont été là et qui ont pu l'applaudir avec leur bêlement, mais elles l'ont même pas fait, elles n'étaient pas intéressées par cette histoire. Peut-être celle qui l'a arraché de la gueule du lion, elle a dit merci à sa façon, mais les autres, elles n'ont pas applaudi. Il n'y avait pas de grande foule qui était là, qui l'acclamait. Quand il a tué Goliath, ça a été l'inverse par contre. Mais David, il n'était pas intéressé par ça. Ils ont même fait des chants pour David. Saül a tué ses 1000, David, il a tué ses 10 000. Vous savez, et ce n'est pas forcément une bonne chose hein, de faire ça. Mais David, il n'était pas intéressé par la gloire des hommes. David, il n'était pas intéressé par tout ce qui pouvait se passer après. David, il était simplement vrai. Les choses qu'il avait vécues dans le secret, il pouvait les vivre devant tout le monde parce que c'était ce qu'il avait vécu. Ça correspondait à ce qu'il avait déjà expérimenté de Dieu. Il n'y avait rien de plus. La seule chose qu'il avait compris, la plus belle chose qu'il avait compris, c'est que la victoire appartient à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, cet après-midi, est-ce que tu as besoin d'une victoire? Alors réalise que la victoire appartient à l'Éternel. Est-ce que tu as besoin de résister aux attaques de l'adversaire, aux tentations qui sont là et qui nous submergent dans ce monde pervers? Alors approche-toi du Seigneur. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. Prends le Seigneur Jésus comme la ceinture de vérité. Prends le Seigneur Jésus comme la cuirasse de justice. Prends le Seigneur Jésus comme les chaussures du zèle, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Mais revêt-toi du Seigneur Jésus. Et par la grâce de Dieu, par sa force toute puissante, tu vas pouvoir tenir ferme. Tu vas pouvoir être un vaillant soldat, spirituellement parlant. Et tu vas pouvoir être utilisé par le Seigneur pour qu'il puisse délivrer aussi les personnes qui sont autour de toi. Est-ce que la victoire de David, ça l'a concerné que lui? Ça a concerné tout un peuple entier. Et je crois que c'est véritablement ce que le Seigneur Jésus veut que nous vivions. Est-ce que nous ne serions pas heureux si la victoire de l'Éternel, elle se manifesterait dans notre famille, dans les personnes qui ne sont pas au Seigneur, dans notre famille? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ces victoires-là? Je vous exhorte, comme M. Gault l'a rappelé ce matin, à venir mardi soir à la prière, puisque nous allons prier pour les familles en particulier. Et je vous exhorte vraiment à venir à ces moments. Et est-ce que vous avez cette envie de prier pour que votre famille soit touchée par le Seigneur? S'il y a un mari ou une femme qui est en conversion, un enfant ou un parent, peu importe. Est-ce que vous ne voulez pas que le Seigneur Jésus fasse son œuvre en eux? La victoire appartient à l'Éternel et c'est tellement bien d'avoir cette promesse qu'on veut le remercier encore dans ces moments. Vous êtes d'accord? Merci Jésus, merci parce que tu nous as fait ces promesses, tu nous as donné cet exemple. Ce jeune garçon qui aux yeux humains avait tout pour perdre, aux yeux humains il avait tout pour ne pas remporter de victoire. Et pourtant, parce qu'il s'est présenté en ton nom, parce qu'il s'est présenté avec l'armure de Dieu, il a pu remporter la victoire. Seigneur, aide-nous à être de ces personnes qui vont te revêtir, qui vont constamment chercher à rester, tenir ferme en toi, ancrer, enraciner dans ta personne. Merci parce que tu nous as donné la foi pour être ce bouclier, Seigneur. C'est la foi qui nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Seigneur, mais nous voulons placer cette foi-là dans ta personne, parce que nous croyons que c'est cette foi qui nous protège. Merci Éternel, parce que tu es le Dieu de délivrance, tu es le Dieu qui pourvoit, et même si l'ennemi voudrait s'acharner à venir contre nous avec l'épée, la lance et le javelot, avec toutes sortes d'armes humaines, Seigneur, nous voulons nous confier en toi tout simplement. Merci Éternel, parce que le salut se trouve auprès de toi, Seigneur, et nous voulons te bénir pour cela. Merci parce que encore dans cet après-midi, tu as parlé à chacun de nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse graver tout cela dans nous. Tu vois les personnes peut-être qui ne connaissent pas, qui n'ont pas compris ce combat spirituel parce qu'ils sont encore aveuglés par le péché, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné le moyen d'être en paix avec toi. C'est par la foi en Jésus-Christ, par la foi que son sang nous purifie de tout péché, Seigneur. Merci de toucher ces personnes. Merci de nous revêtir à nous, Seigneur, de nous aider à nous revêtir de toutes ces armes afin d'être utiles entre tes mains pour ta gloire éternelle. Amen.